Vous écoutez France Culture.
Il est 11h en ce premier dimanche de septembre et vous écoutez France Culture. C'est Michel Schaeffer au micro en direct de Mialet dans les Cévennes pour vivre avec vous ce traditionnel rassemblement protestant, l'Assemblée du désert. Comme chaque année, je tiens particulièrement à remercier Philippe Meyer de l'émission L'Esprit Public. Il nous laisse sa place à l'antenne pour cet événement et je salue tous ses auditeurs qui peuvent bien sûr rester avec nous et qui le retrouveront dès la semaine prochaine. Alors pour mémoire, l'Assemblée du désert rassemble chaque premier dimanche de septembre des milliers de protestants pour un culte en plein air, comme le faisaient au XVIIe et XVIIIe siècle les protestants persécutés pour leur foi. Ils se rassemblaient alors clandestinement dans des lieux déserts pour célébrer leur culte, au risque, s'ils étaient pris, d'être condamnés aux galères à vie. Cette année 2017 marque le 500e anniversaire de la réforme de Luther, lancée depuis Wittenberg. On peut dire qu'en tenant la Bible pour seule source légitime d'autorité chrétienne, Martin Luther a sérieusement défié l'autorité papale et du coup changé le cours de la civilisation occidentale. L'Assemblée du désert revient sur ce bouleversement majeur dans l'histoire du christianisme provoqué par le mouvement de Luther en quelques années. Plusieurs temps forts ont été organisés tout au long de cette année 2017. Un grand colloque doit avoir lieu les 22 et 23 septembre prochains. Le point d'orgue de cette année aura lieu à Strasbourg avec protestants en fête les 27, 28 et 29 octobre. Je recevrai d'ailleurs dans un instant, tout à l'heure après la prédication, le pasteur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France. Il nous parlera de ces événements, mais pour l'heure, il est temps de nous mettre à l'écoute de ce culte présidé par Jean-François Brenne, pasteur de l'Église protestante unie de France à la paroisse luthérienne de Saint-Jean à Paris. Il est monté en chaire devant l'importante assemblée qui a déjà assisté à plusieurs baptêmes. Une dizaine de personnes ont été baptisées ce matin ici en plein air sous les arbres et sous le soleil. La célébration est donc faite. Tout le monde est prêt maintenant pour écouter ce culte qui va démarrer dans quelques instants après ce cantique.
Notre aide soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Dieu, par ta parole, tu fais exister toutes choses. Tu nous l'as appris, on ne naît pas humain, on le devient, par la seule force de la parole entendue, reçue. C'est elle qui est notre pain véritable. C'est elle qui nous nourrit de la seule nourriture qui vaille. De cette parole qui peut redonner sens à nos vies parfois insensées, qui peut redonner souffle à nos vies si souvent à bout de souffle, qui veut faire en nous toutes choses nouvelles. Pour tout cela, grâce te soit rendue. Amen. Frères et sœurs, écoutez comment Dieu veut être servi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous nous présentons maintenant en humilité et en vérité devant Dieu, et nous prions avec ces mots de Martin Luther. Je confesse devant Dieu, moi pauvre pécheur, que j'ai gravement offensé tous les jours et de différentes manières ce Dieu très saint. Non seulement par des péchés manifestes en parole et en acte, mais encore par des pensées mauvaises et les désirs coupables de mon cœur, par incrédulité, impatience, égoïsme, orgueil, convoitise, avarice, jalousie, haine, et par beaucoup d'autres fautes secrètes dont je m'avoue coupable et que tu connais mieux que moi-même. Je regrette tous ces péchés, je m'en repens, j'ai un profond regret de les avoir commis. Je demande de tout mon cœur grâce et pardon à mon Dieu, au nom de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Je veux y renoncer et je prie le Seigneur de m'en donner la force par son Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons au psaume 42, les strophes 1 et 2, comme un cerf altéré brame pourchassant le frais des eaux. Frères et sœurs, à vous tous qui vous reconnaissez pécheurs et qui croyez que le Père vous a fait miséricorde en son Fils, Jésus-Christ, j'annonce le pardon de tous vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous poursuivons avec les strophes 3 et 4. Du psaume 42, mais pourquoi pleurer mon âme nuit et jour en tous les lieux ?
Thank you.
Avant d'écouter la lecture des Écritures, nous prions. Notre Dieu, tu as suscité en tout temps des témoins fidèles pour que brille la lumière de l'Évangile. Accorde-nous de proclamer avec joie ta parole, qu'elle nous renouvelle jour après jour. Accompagne la marche de ton Église en ce monde afin qu'elle te reste fidèle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai retenu pour ce matin deux lectures. La première ne se trouve pas dans l'Épître aux Romains, trop facile, mais dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, les versets 23 à 29. Avant la venue de la foi, nous étions gardés en captivité sous la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi donc, la loi a été notre surveillant en attendant le Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais après la venue de la foi, nous ne sommes plus soumis à ce surveillant. Car tous, vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham. Selon la promesse, vous êtes héritier. La seconde lecture dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 6, à partir du verset 28. Ils lui dirent alors, « Que nous faut-il pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. » Ils lui répliquèrent, « Mais toi, quel signe fais-tu donc pour que nous voyions et que nous te croyions? Quelle est ton œuvre ?» Au désert, nos pères ont mangé la manne, ainsi qu'il est écrit, « Je leur ai donné à manger un pain qui vient du ciel. » Mais Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui croit en moi jamais n'aura soif. Mais je vous l'ai dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le rejette pas, car je suis descendu du ciel pour faire non ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Notre Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds, éclaire pour nous le sentier. Amen. Et nous prenons au cantique 230, les strophes 1 à 3. Cantique 230, au « Parle-moi, Seigneur, ton serviteur écoute ». Et je vous invite à la prière, parce que dans la tradition luthérienne, la prière d'illumination se fait maintenant, après les lectures bibliques et juste avant la prédication. La prière qui était avant les lectures bibliques s'appelle la prière de collecte. Nous prions donc. Notre Dieu, nous venons d'entendre la lecture des Écritures. Envoie maintenant sur nous ton souffle saint, afin que les vieux mots usés deviennent véritablement pour nous paroles vivantes et vivifiantes. Donne-nous des oreilles pour entendre et un cœur pour en vivre. Amen. Frères et sœurs, les hommes qui n'ont aucune expérience de la foi chrétienne et qui n'ont jamais ressenti sa puissance en font une chose bien extérieure. Comment en parler convenablement ? Comment comprendre même ceux qui en ont parlé si dans l'étreinte de l'épreuve et des tribulations, on n'a pas éprouvé ce qu'elle vaut ? Quiconque, au contraire, en a goûté la vertu, ne saurait se lasser d'en parler, d'en écrire, d'y penser sans cesse. Elle est cette source d'eau vive dont parle Jésus-Christ, qui jaillit jusqu'en vie éternelle. Mes amis, ces mots ne sont pas les miens. Ils sont de Martin Luther, bien sûr, saint Vincent de la Réformation oblige. Mais chemin faisant, il nous rappelle ce matin quelque chose d'essentiel, me semble-t-il, que la foi dont parle le quatrième évangile, que la foi dont nous parlons est une expérience. Que la foi n'est pas d'abord je ne sais quelle adhésion intellectuelle à un système de croyance, comme en un gigantesque QCM spirituel, où il nous faudrait cocher les cases Trinité, conception virginale, incarnation, résurrection, péché et bonne morale, bien sûr. Non. La foi est d'abord une expérience. Et comme le dit Luther, ceux qui ne l'ont pas ressenti en font quelque chose de bien extérieur. Car la foi est saisissement. Saisissement par une parole étrange et étrangère qui vient nous arracher à la tyrannie des apparences et des évidences, afin de nous proposer une autre manière d'être, dans le don et le pardon possible. La foi est une expérience. Elle est saisissement par une parole, celle de Christ qui vient faire voler en éclats toutes nos anciennes représentations de Dieu, où Dieu n'est plus un poing dressé contre le monde, où Dieu n'est plus un doigt accusateur pointé contre nous, mais où Dieu est une main tendue vers toi, vers moi, vers nous, rassemblés ici ce matin. Une main qui veut nous donner la vie, le pain de vie, dans une parole capable de redonner sens à nos vies si souvent insensées. Toute la vie chrétienne se tient là, dans ce saisissement, captif désormais que nous sommes de cette parole venue d'ailleurs. Je me tiens là, disait Luther, devant la diète à Worms, parce que je ne peux pas faire autrement. Je suis captif des Écritures. Captif, nous le sommes, de cette Écriture qui, paradoxalement, nous libère. C'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ vous a libéré, s'écrit Paul aux Galates. Et l'ensemble de la théologie de Luther se concentre dans cette devise, écrit Oswald Bayer. C'est la clé de lecture de Luther, dans l'expérience foudroyante qu'il a fait de cette main tendue de Dieu à l'homme. Et c'est ce qu'il nous lègue. Par-delà, je le sais bien, ses outrances et même ses errances, c'est pourtant ce qu'il nous lègue 500 ans plus tard, une clé, peut-être même un trousseau de clés. Une clé de lecture, une clé d'interprétation des Écritures et de la foi, une clé herméneutique, disent les théologiens et les philosophes. Quelle est cette clé ? Christ lui-même, main tendue de Dieu à l'homme. Christ lui-même, parole vivante et vivifiante. Christ lui-même, norme désormais de la vie et de la foi. Car ma sœur, mon frère, ici, il me semble qu'un grand piège nous guette et nous a guettés et nous guettera encore. Nous confessons volontiers en effet que les Écritures, la Bible, sont la norme de la vie et de la foi. Mais, car il y a un mais, la Bible n'est pas la parole de Dieu comme texte. La Bible est l'écrin de la parole. Comme le berceau de Jean portait Moïse sur les eaux du Nil, disait Luther. Mais le berceau, bien sûr, n'est pas Moïse. Le berceau le porte et l'amène. De même, les Écritures ne sont pas la parole de Dieu comme texte, mais les textes la portent et nous l'apportent, cette parole. Et si les Écritures sont bien, comme on l'a appris au caté quand on était petit, la seule norme de la vie et de la foi, alors il nous faut admettre que la norme est elle-même normée. Vous me suivez ? Si le sola scriptura demeure notre vérité première, Luther nous rappelle qu'il y a une norme de la norme, qui est le Christ lui-même. Cela nous enseigne qu'il n'y a pas de lecture naïve, immédiate, qui soit possible du texte biblique. Que le texte biblique se donne toujours à travailler, à interpréter. Et que c'est dans ce travail de l'interprétation que se joue tout à la fois notre liberté et celle de Dieu lui-même. Ainsi, il nous faut une clé de lecture. Il nous faudra toujours une clé, car il a toujours fallu une clé. Le plus souvent, celle-ci fonctionne à l'insu du lecteur. C'est la philosophie de l'époque, c'est la morale du temps, c'est la bonne théologie qui règne alors. Mais Luther, lui, trouve la clé dans le texte lui-même, ou plutôt, non, pas dans le texte, mais dans la personne du Christ. C'est lui, Christ, qui est la clé d'interprétation de toute la Bible. Et c'est avec ces lunettes-là que nous pouvons et que nous devons désormais lire notre Bible. Bible qui devient alors véritablement l'écrin d'une parole vivante et vivifiante et nous fait cheminots des mots, pèlerins de lumière, funambule de la grâce. Et il me semble que ce rappel est pour nous d'une terrible actualité. À l'heure de la montée de tous les fondamentalismes, de tous les intégrismes, de tous les littéralismes, à l'heure où le religieux ne se fait plus entendre qu'à travers le masque hideux de l'exclusion et de la haine de l'autre, Luther, paradoxalement, nous rappelle avec quelles lunettes il convient de lire. Les lunettes du Christ lui-même, pain vivant, main tendue à l'homme. Ou pour le dire autrement, les lunettes de la grâce, bien sûr, tout simplement. Les lunettes de l'Évangile au singulier, c'est-à-dire de la bonne nouvelle de cette main tendue de Dieu au monde, pour nous relever. Et cet Évangile résonne de façon particulière dans l'Épître aux Romains, bien sûr, mais aussi dans l'Épître aux Galates que nous avons entendu, qui est, dira Luther, ma petite épître à moi, à laquelle je me suis fié, marié même, dit-il. Elle est ma quête von Bora, épître à laquelle il consacra un premier cours dès 1516. Cette compréhension de l'Évangile comme main tendue de Dieu pour relever et libérer l'homme, nous la trouvons encore dès 1517 dans sa série de prédications sur le Notre Père qui sera publiée en allemand dès le début de l'année suivante par l'un de ses disciples. Or, le texte évangélique le plus cité alors par Luther est notre chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, ce qui explique que je l'ai retenu pour ce matin. Précisons que Luther gardera toujours une prédilection particulière pour l'Évangile de Jean, ainsi que pour le psautier d'ailleurs. Allons. J'entends mes collègues réformés qui trépignent, discrètement, et ils ont raison, alors revenons au texte, que diantre. Notre chapitre 6 nous offre deux clés supplémentaires pour ce matin. La première réside au cœur du verset 39. « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, dit Jésus, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné. » Ma sœur, mon frère, qui d'entre nous ne s'est jamais senti perdu ? Perdu lorsque la haine et la violence partout autour de nous et parfois en nous-mêmes semblent triompher. Perdu lorsque nos familles éclatent, nos enfants vont mal, nos petits-enfants errent entre chaos et non-sens. Perdu lorsque la maladie grave et le deuil s'invitent chez nous à demeure. Remarquons chemin faisant que cela dure depuis que le monde est monde et qu'il n'y a jamais eu de temps béni, mais seulement des hommes et des femmes qui, de génération en génération, à chaque génération, tentent de vivre d'une parole de bénédiction. Mais laissons cela. Qui d'entre nous, disais-je, ne s'est jamais senti perdu ? À cela, l'évangile de ce matin nous rappelle que la volonté de Dieu, c'est que pas un de nous ne se perde. Que Dieu est éternellement non point dressé ni doigt accusateur, mais main tendue vers toi, vers moi, vers nous, pour nous relever. La mission du Christ, son identité même, c'est que pas un ne se perde. La mission du Christ, son identité même, c'est de relever, littéralement de ressusciter, de te ressusciter, de me ressusciter, de nous ressusciter. Et cela, c'est cela la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Ce mot résonne 4 fois dans le texte grec en l'espace de 2 petits versets. La volonté de Dieu. Souvent, nous nous interrogeons sur la volonté de Dieu. Et nous prions que ta volonté soit faite. Mais qu'est-ce que la volonté de Dieu ? Une certaine spiritualité des siècles passés a pu cultiver une notion de la volonté de Dieu devenue semblable à une épée de Damoclès, menaçante et arbitraire, suspendue au-dessus de la tête des hommes, à laquelle ils ne pourraient échapper et qui devait les frapper au moment le plus imprévu. Mais la notion biblique de volonté de Dieu est très éloignée de cette façon de parler, écrit le moine cistercien Don André Louf. Ce que la Vulgate, la Bible latine, a traduit par « volontas » remonte au grec « téléma » et parfois « eudokia ». Les deux mots renvoient à l'hébreu « ratson », parfois aussi « ratsa ». Or, le sens de ces termes est tout différent. Aspiration, désir, amour, joie. Ces mêmes racines en hébreu désignent aussi l'état amoureux et même le désir sexuel. La volonté de Dieu est son amour qui repose sur le peuple qu'il s'est choisi dans son bon plaisir. La volonté de Dieu signifie donc ici la joie que Dieu éprouve à cause de son peuple, le grand amour qu'il ressent pour son élu. Telle est sa volonté, son téléma, qu'il aime son peuple, malgré ses nombreuses infidélités, qu'il aime le monde, malgré ses horreurs. Et la plénitude de ce même amour repose à présent sur Jésus-Christ. Il est le désir et l'amour de son Père, son bonheur. Ma sœur, mon frère, la volonté de Dieu, c'est son amour pour le monde, sa main tendue vers toi, c'est que pas un ne se perde, pas un, pas même un seul. Le piège qui nous guette en ces temps agités, c'est celui de la peur, du repli identitaire, de nous comprendre comme une tour d'ivoire assiégée. Mais la volonté de Dieu est tout autre. Elle est main ouverte, main tendue, confiance en toi, en moi, en nous, afin de nous donner, face à la méfiance et à la défiance, d'inventer à notre tour une autre manière d'être dans la confiance. On ne construit pas une société. On ne construit pas l'Église. On ne construit pas sa vie sur la méfiance et la défiance. N'en déplaise à d'aucuns. L'Évangile nous propose un autre chemin, celui de la confiance envers et contre tous. Et cette confiance ne vient pas de nous. Ce n'est pas un optimisme. Elle nous est donnée. Pour nous, Église, il me semble que les enjeux à venir s'appellent encore et toujours écuménisme, dialogue interreligieux, accueil des plus petits et des plus faibles, des exclus, des exilés, des réfugiés. Et j'en arrive à ma troisième clé pour nous ce matin, un petit verbe que Luther relève déjà dans son commentaire du « Notre Père » de 1517. Un petit mot qui résonne pas moins de 11 fois dans notre chapitre 6. Donner. Donne. Dieu donne. Dieu est celui qui donne la vie et le pain de vie, qui est sa parole. Christ donne. Il est celui qui donne le pardon. Le pardon qui devient la porte d'une nouvelle grammaire relationnelle possible pour nous et entre nous. Tout le reste n'est que littérature. Ma sœur, mon frère, l'enjeu est colossal. Dieu lui-même change de visage. Il n'est plus point dressé contre le monde, ni doigt accusateur pointé contre l'homme, mais il est désormais et à jamais main tendue pour toi, pour moi, pour nous. Mais allons encore un peu plus loin, si vous le voulez bien. Les versets 34 à 40 de notre péricope constituent le point culminant de cette première partie du quatrième évangile. Il vise à clarifier, dit Jean Zumstein, exégète du quatrième évangile bien connu, l'identité du donateur de pain véritable, Christ lui-même, qui est celui qui donne la vie. Mais il donne la vie à ceux-là même que Dieu lui a donné. La tête nous tourne un peu. Dieu est celui qui donne. Il donne la vie et avec elle son Fils. Et cela, il le donne à ceux qu'il lui a donnés, afin que pas un ne se perde. C'est à y perdre, en tout cas, non pas son latin, mais au moins son grec. À moins que. Et si c'était toi ? Et si c'était moi ? Et si c'était nous qui étions aussi des dons de Dieu ? Le verbe « donner » qualifie le Christ, il qualifie aussi la foi, mais il qualifie encore le croyant, c'est-à-dire toi, moi, nous ensemble. Et s'il y avait là une ultime clé, à savoir redécouvrir que nous sommes un don de Dieu, un don de la vie à la vie, un don gratuit, où le message de la réformation reprend tout son sens. Pas à vendre, Non, Dieu ni sa volonté ne sont pas à vendre, car la volonté de Dieu est cadeau. Non, la foi n'est pas à vendre, c'est cadeau. Non, l'homme n'est pas à vendre, car il est un don de Dieu, lui aussi. Ma sœur, mon frère, n'y eut-il jamais meilleure nouvelle pour toi, pour moi, pour nous? Tu es un don de Dieu. Je suis un don de Dieu. Notre seule tâche, désormais, est d'apprendre à le redécouvrir chaque jour et d'en vivre. Il s'agit pour nous simplement d'accepter d'être accepté et de le partager au monde. Et cela, quoi qu'il en coûte, car il est possible que cela coûte. Les hommes qui n'ont aucune expérience de la foi chrétienne et qui n'ont jamais ressenti sa puissance en font une chose bien extérieure. Comment en parler convenablement? Comment comprendre même ceux qui en ont parlé? Si dans l'étreinte de l'épreuve et des tribulations, on n'a pas éprouvé ce qu'elle vaut. Quiconque, au contraire, en a goûté la vertu, ne saurait se lasser d'en parler, d'en écrire, d'y penser sans cesse, car elle est cette source d'eau jaillissante dont parle Jésus-Christ, cette source qui jaillit jusqu'à la vie éternelle, qu'elle soit pour toi, pour moi, source jaillissante en vie éternelle. Amen. Il me faut vous annoncer le prochain cantique. Le 543, nous chanterons les strophes 1 à 4. C'est un rempart que notre Dieu, le choral de Luther, bien sûr. Et puis, pendant les chants qui suivront, vos offrandes vont être recueillies. Souvenons-nous que Dieu aime le don joyeux.
Vous êtes toujours à l'écoute de France Culture. Nous sommes en direct de Mialet. C'est l'Assemblée du désert dans le Gard. Ce culte présidé cette année par Jean-François Braine, pasteur de l'Église protestante unie de France, paroisse luthérienne de Saint-Jean à Paris. Et c'est lui que nous venons d'entendre pour sa prédication. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que le thème choisi pour cette année à l'Assemblée du désert et de Luther au désert, dans le cadre de 2017, 500 ans de réforme. Pendant le temps de la collecte, nous recevons François Claveroli, président de la Fédération protestante de France.
Protestant 2017, vivre la fraternité avec la Fédération protestante de France.
François Claveroli, cette année 2017 est particulière pour le protestantisme, puisque c'est en 1517, donc il y a tout juste 500 ans, que Luther a exposé ses fameuses 95 thèses qui vont être à l'origine de la réforme et du protestantisme. Alors en préambule, il est peut-être nécessaire de préciser que les commémorations qui ont lieu tout au long de cette année n'ont pas pour objectif de faire de Luther un saint, ce serait un comble pour les protestants. Luther avait des faiblesses, ces polémiques qui nous heurtent, le pasteur Jean-François Braine l'a évoqué en quelques mots, mais il faut bien reconnaître que Luther a été une des grandes figures spirituelles de l'histoire religieuse. Plusieurs événements vont avoir lieu cette année, vous pouvez peut-être nous en parler, avec peut-être pour commencer ce livre que vous tenez entre les mains, peut-être pour la première fois je crois.
Ce livre vient de paraître sur l'initiative de la Fédération protestante. Il s'appelle « Les protestants, 500 ans après la réforme ». Et il a été confié à Michel Bertrand, qui en a fait la direction d'édition. Et c'est un livre qui représente, qui présente au lecteur l'ensemble des éléments de la foi protestante, hier, aujourd'hui, demain, et à tous les niveaux, éthique, politique, spirituel, artistique, culturel, etc. C'est un très beau livre qui vient de sortir, que j'ai dans les mains et que je découvre avec vous.
Voilà. Et peut-être un livre aussi qui fait place aussi au débat.
C'est un livre qui met en dialogue la diversité protestante avec les meilleurs théologiens, historiens, sociologues du pays, et qui ouvre la réflexion, qui présente au fond l'élément civilisationnel de la réforme qui touche tous les pays du monde, pour en donner la substantifique moelle, dire que ce message concerne tout homme et tous les hommes.
Alors tout au long de l'année, alors ce livre va être bien sûr disponible très très prochainement et très vite pour tout le monde. Alors un événement qui va avoir lieu aussi cette année, dont il serait intéressant de parler maintenant, c'est ce colloque qui va avoir lieu à la mairie de Paris. Quel est l'objectif de ce colloque qui aura lieu donc les 22 et 23 septembre prochains?
Ce colloque organisé à la mairie de Paris, qui sera inauguré par Anne Hidalgo, la maire de Paris, a pour titre « Protestantisme, conviction et engagement ». Il a une dimension internationale, une dimension historique, une dimension interreligieuse. Il réunit les meilleurs spécialistes de tous ces sujets qui concernent le protestantisme, avec des regards très différents, des regards portés sur le protestantisme par d'autres confessions. Et nous pouvons nous inscrire sur le site protestant-2017.org/colloque. C'est un colloque auquel j'invite les auditeurs à s'inscrire parce qu'il est vraiment particulier. Il commémorera donc les 500 ans de la réforme à l'Hôtel de Ville de Paris les 22 et 23 septembre prochains.
Donc si vous voulez tout savoir sur le protestantisme depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, voilà ce qu'il faut faire, c'est venir s'inscrire à ce fameux colloque.
Il sera aussi l'occasion de voir comment le protestantisme s'est répandu dans le monde, comment il est perçu aussi, comment il est en dialogue et comment il enrichit la grande conversation humaine aujourd'hui.
Et puis, il sera aussi l'occasion de montrer la diversité du protestantisme dès l'origine, puisqu'il y a plusieurs réformes qui se sont succédées pour arriver aujourd'hui à un protestantisme multiple.
Un protestantisme divers, varié, multicolore, comme j'aime à le rappeler, mais aussi en dialogue avec les autres religions. Nous avons aussi la chance d'avoir la présence du président de la République, Emmanuel Macron, qui sera à l'Hôtel de Ville, donc vendredi soir.
Alors, c'était effectivement très très important comme personnalité pour reconnaître que le protestantisme est aussi une composante de la société française.
Est une composante active et qui construit la société d'aujourd'hui et de demain depuis plus de 5 siècles.
Voilà, et justement il y aura aussi une partie consacrée au protestantisme et à la modernité qui sera animée par différentes personnes dont Hubert Bost ou Jean Bobéro. Mais enfin, qu'est-ce que c'est pour vous, protestantisme et modernité?
Je crois que le protestantisme s'est toujours défini au fond comme en dialogue avec le temps présent. Et dans ce dialogue critique, dans ce dialogue qui le maintient à distance critique, il a toujours tenté de déceler, découvrir les ouvertures, les évolutions possibles pour la société, au plan politique, au plan économique, au plan spirituel, au plan éthique. Donc il y a une permanence de cette présence moderne au fond du protestantisme, avec ce grand débat au fond entre conservatisme et prophétisme, et qui fait la dynamique même de la posture protestante, toujours en débat.
Et finalement, toujours engagé dans la société.
Les engagements du protestantisme sont connus, sont anciens et aujourd'hui sont renouvelés par les crises que nous connaissons, notamment l'accueil des réfugiés qui devient vraiment nécessaire, et le protestantisme français s'y est engagé. Je pense aussi à la question des changements climatiques et l'importance de cette prise de conscience d'un danger qui met en cause au fond l'avenir même, hein, de la vie sur Terre. et puis toute une série d'engagements personnels auprès de l'extrême pauvreté, auprès de l'exclusion et auprès aussi du handicap. Toutes ces questions-là que le protestantisme traite dans ses fondations, ses institutions, ses associations.
Alors tous ces sujets seront abordés tout au long de ce colloque et seront aussi montrés, exposés, si je puis m'exprimer ainsi, à protestants en fait. Alors là, on passe au point d'orgue de cette année de commémoration. Ça sera à Strasbourg, fin octobre 2017, avec ce thème principal qui est la fraternité. Pourquoi est-ce que c'est ce thème qui a été choisi pour cette année?
C'est le thème qui traverse aujourd'hui la plupart des sociétés occidentales et qui révèle la fragilité de nos démocraties. Sans la fraternité, les liens se distendent et la violence guette chacune de nos relations. Et nous avons placé cette année 2017 sous le thème de la fraternité, vivre la fraternité. Et à Strasbourg, du 27 au 29 octobre, les œuvres, les associations, les fondations manifesteront, exposeront leurs actions, leurs projets, leurs questions aussi adressées à la société, leurs interpellations à travers des stands, place Kléber, donc la grande place de Strasbourg, mais aussi place Gutenberg, place Saint-Thomas, etc.
Alors cette fraternité sera montrée, sera exposée sous différentes formes, avec des sous-thèmes qui seront associés à certaines actions des associations, des œuvres ou des églises. Se connaître, pourquoi se connaître? Se connaître, se rencontrer, apprendre à se connaître. Comment apprendre à se connaître? Est-ce que vous pouvez rajouter un mot sur cette connaissance mutuelle?
C'est cette idée qu'au fond nous bâtissons une société de solitude et même de telle concurrence entre les personnes et entre les groupes que beaucoup de malheurs guettent la vie même de chaque individu et notamment celui de l'exclusion et du sentiment d'échec, du sentiment de déclassement, du sentiment d'excommunication, pourrait-on dire, avec un terme un peu religieux, mais la nécessité de se connaître, la nécessité d'aller vers l'autre et d'être connu par l'autre et reconnu par l'autre est une nécessité d'ordre spirituel. Et le protestantisme, dans cette société qui souffre, qui manque peut-être un peu de souffle aussi, doit rappeler cette exigence de la fraternité.
Alors il y a aussi d'autres sous-thèmes, dépasser ses peurs, se parler, faire ensemble, vivre la fraternité donc de manière concrète, hein, avec des coopérations, des expressions du vivre ensemble de façon concrète. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces événements qui vont avoir lieu aussi à Protestants en fait, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs espaces qui vont être dédiés à ces thèmes.
Des parcours où les uns et les autres pourront se promener d'un stand à l'autre et avancer dans cette découverte, dans cette reconnaissance de l'autre, un parcours de reconnaissance, et peut-être même avec les deux sens de ce mot, hein, à la fois de découvrir et puis de dire merci pour tout ce qu'on découvre, hein, d'être dans la reconnaissance. Des conférences, des colloques, la nuit des thèses, hein, où les professeurs de théologie de plusieurs facultés vont le soir dire en quelques minutes leurs convictions et leur essence quant à la foi.
Donc ce sont des thèses pour aujourd'hui.
Des thèses pour aujourd'hui. Et puis évidemment des spectacles. Et puis le week-end se terminera par le culte au Zénith qui sera donc télévisé et sans doute diffusé en Eurovision, donc sur France Télévisions. C'est un ensemble, si vous voulez, un parcours de 3 jours qui permettra aux protestants de la ville et à tous ceux qui nous rejoindront de témoigner de leur foi. Après l'affichage des thèses de Martin Luther, faire en sorte que notre foi ne soit pas une posture d'affichage seulement, mais d'engagement concret.
Et qu'elle soit vécue de façon
authentique.
Authentique. Voilà. Merci beaucoup François Claveroli pour ces précisions sur ce colloque, sur Protestants en fait, et puis sur ce livre que vous découvrez, j'allais dire en chair et en os, non, mais vraiment ce livre qui est enfin édité, qu'on attendait, qui a été un gros travail de la Fédération protestante de France et qui permettra de témoigner de ce qu'est le protestantisme aujourd'hui.
755.
Alors, je ne sais pas exactement où on en est par rapport à la collecte, mais nous avançons déjà bien dans le temps. Il nous reste encore 10 minutes à passer ensemble, pas tout à fait 10 minutes, et nous allons reprendre la suite de cette célébration de commémoration spéciale aujourd'hui des 500 ans du protestantisme, de l'affichage des thèses de Luther, avec ces cantiques que je vous laisse écouter.
Trois jours de fête pour découvrir et partager la richesse de l'engagement du protestantisme. Au programme, le village des fraternités, des conférences, la nuit des thèses, des concerts et le culte XXL au Zénith. Un événement ouvert à tous, venez nombreux. Programme détaillé, informations pratiques et inscriptions en ligne sur www.protestant.org. Protestant en fête, c'est du 27 au 29 octobre prochain à Strasbourg.
Peut-être tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois cette offrande que nous te présentons pour le service de ton évangile et de nos frères.
Voilà, nous allons terminer ici cette retransmission du culte de l'Assemblée du Désert 2017, présidée en direct par le pasteur Jean-François Braine de l'Église protestante unie de France, en poste à la paroisse luthérienne de Saint-Jean à Paris. Un grand merci à Frédéric Kérou, à François Rivalan pour cette retransmission. C'est l'équipe de Radio France qui nous a permis cette retransmission. Une émission proposée par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Sachez que vous pourrez retrouver le culte, le texte de cette émission sur le site franceculture.fr ou protestant.org. Vous pourrez aussi le recevoir par courrier si vous le désirez, en écrivant au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy 75 009 Paris. Très bonne journée à vous tous.